Il est un enfant du pays, un enfant de chez nous. Il a poussé son premier cri à la Chaux-de-Fonds il y a un certain nombre d'années. Et bien avant qu'il connaisse le Père, Dieu lui avait donné la vie. Il est avec nous depuis vendredi. Il a participé à ce week-end avec nous sur le terrain. Il est maintenant ici et il va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. J'ai la joie de vous présenter Manu Richer.
Voilà, bonjour à chacun. Je suis très heureux de revenir. Voilà, il y a un peu plus de 20 ans, en fait, effectivement, que j'ai été... un peu plus de 20 ans, ouais, je passe sur les détails. Enfin, il y avait un peu plus de deux fois 20 ans même, mais bon. Voilà où j'ai été présenté dans cette église par le pasteur Henri Étains, que les plus anciens, peut-être, connaissent, dont ils se souviennent. Et je me souviens de ses grosses mains et de sa voix chaleureuse, de son grand sourire. Et puis, et ensuite, nous sommes partis en France pour servir parmi le peuple tzigane. Tout ça, voilà, je vais introduire par quelques chants de présentation, de témoignage, et puis ensuite nous prendrons un temps autour de la parole de Dieu. Ce premier chant qui dit « Je suis un voyageur », alors qu'il est là comme une carte de visite, j'aime bien me présenter en chanson, mais ce chant qui est là aussi pour vous interpeller, parce que Jésus disait une parole qui interpelle, toutes les paroles de Jésus interpellent encore, mais il disait cette parole particulière, il disait « Amassez-vous des trésors sur la terre ?» Non, dans le ciel. Voilà, il finissait cette parole en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et quelquefois, malheureusement, y compris dans le peuple chrétien, on peut se demander où est notre trésor. Et si on a vraiment l'intention de passer l'éternité avec Dieu, au vu de ce qu'on amasse sur la terre, n'est-ce pas ? Pardonnez-moi si je vous surprends un peu. Alors cette chanson qui s'appelle « Voyageur » et qui est une carte de visite pour me présenter, je suis un voyageur, j'ai grandi avec les gens du voyage, les manouches, mais aussi qui est là peut-être pour vous interpeller et vous faire poser la question, mais c'est vrai aujourd'hui, où est-ce que j'amasse des trésors ? Est-ce que c'est dans le ciel ou est-ce que c'est sur terre ? Quels sont mes choix ? Alors ce chant « Voyageur » avec quelques images et on lance le clip « Voyageur ». Merci beaucoup. Ma richesse est ailleurs. Alors, je vais vous poser une question indiscrète. Vous n'êtes pas obligé de répondre en vous levant les uns après les autres, mais où est votre richesse ? Ma richesse, pendant de nombreuses années, j'ai cru que c'était dans ce monde, avec les choses matérielles, avec la gloire. Et je suis parti comme cet enfant prodigue, à gaspiller beaucoup de ce que Dieu m'avait donné. Mais un jour, Dieu, dans sa grâce, m'a permis de revenir. Et c'est ce qui illustre ce chant qui s'appelle « Reviens ». Qui illustre ta parabole de l'enfant perdu, de l'enfant prodigue. Et sache que si ce matin, eh bien, tu es loin de la maison du Père, ton Père, il t'attend. Il scrute le chemin, il scrute l'horizon pour voir ce moment où tu feras demi-tour. Sache que ton Père t'aime tel que tu es, qu'il attend ton retour. Alors ce matin, reviens. Et on lance les images, reviens aussi. L'amour de Dieu qui se nourrit. Merci. L'amour de Dieu qui se nourrit de ce pardon, cet amour qui est suffisant pour colorier entièrement ce monde avec cet amour infini. Cet amour, il est suffisant pour colorer toute la noirceur de ce monde, toute la détresse, toute l'obscurité de ce monde. Vous le croyez ? Amen. Oui, peut-être. Peut-être pas tous, mais alors c'est ce que dit cette petite chanson qu'on a chantée dans les rues de La Chaux pendant ces derniers jours, colorer le monde avec l'amour de Jésus. Parce qu'on croit, je crois, et c'est pour ça que je fais autant de kilomètres dans toute la francophonie, parce que je crois que l'amour de Dieu, il est suffisant eh bien, pour remplir le vide, pour remplir l'obscurité, pour remplir les ténèbres de chaque cœur, de chaque être humain sur cette terre. Alors cette petite chanson, avant de prendre un temps autour de la parole de Dieu qui dit colorer le monde avec l'amour de Jésus, et pour ceux qui connaissent le refrain qu'ils l'ont déjà entendu les jours précédents, vous êtes chaleureusement invités à chanter avec moi, d'accord ? On y va, colorer le monde. Merci d'avoir chanté avec moi. Merci et ces applaudissements montent à celui qui est l'inspirateur de toutes choses, n'est-ce pas ? On est bien d'accord. Alors, j'aimerais partager ce matin un texte, une parabole particulière qui parle, on peut peut-être le dire, de colorer le monde. Cette parabole, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 16. Matthieu 20, versets 1 à 16. Et c'est Jésus qui parle et qui dit « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est parce que personne ne nous a loués, embauchés. » Alors il dit « Allez aussi à ma vigne. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient. » Et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Voilà cette histoire un petit peu particulière, n'est-ce pas ? Alors peut-être certains sont en train de penser, c'est normal qu'un Français vienne nous raconter cette histoire de gens qui travaillent pas beaucoup et qui sont aussi bien payés que ceux qui travaillent toute la journée. Je suis natif de la Chaux-de-Fonds, je vous le rappelle quand même, donc j'ai quand même gardé une bonne empreinte sur le travail. C'est vrai que c'est une histoire très surprenante, c'est une drôle de logique économique, n'est-ce pas ? Imaginez un patron qui est tellement bon, tellement altruiste, qu'il donne le salaire d'une journée de travail à son ouvrier qui aurait travaillé que quelques heures, ou le salaire d'un mois à son ouvrier qui n'aurait travaillé que quelques journées. Avouez que ça semble un peu inimaginable, n'est-ce pas ? On peut se poser la question, mais ce patron terrestre, est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il existe ? Écoutez, je ne sais pas, je n'en ai jamais rencontré de tel, mais je me dis même dans l'hypothèse où ce patron terrestre existerait, je donne pas cher de la longévité de cette entreprise, n'est-ce pas ? Dans un monde économique actuel où il suffit d'annoncer qu'on va faire un plan de licenciement, même si l'entreprise est bénéficiaire, on annonce un plan de licenciement et ça y est, l'entreprise est bien mieux cotée en bourse, etc. Les spéculateurs se lancent sur ses actions, etc. Donc je ne donne pas cher de la peau de cette entreprise si elle existe. Mais pour être vraiment sincère, non, je ne pense pas que cette entreprise, pour pouvoir vivre, eh bien, elle puisse être terrestre. Je crois que pour pouvoir subsister, pour pouvoir tenir la route, cette entreprise ne peut être que divine. Alors, du coup, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie, cette distribution, cette récompense, cette pièce d'argent, que ce denier que le maître de la maison donne à chacun de ses ouvriers ? Alors, peut-être deux pistes ce matin pour nous guider. Peut-être qu'on peut imaginer que cette récompense, ce salaire, c'est simplement la grâce de Dieu qui est offerte à celui qui accepte cette invitation à la grâce, qu'il accepte quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quel que soit l'avancement dans la vie, quel que soit le chemin passé sur cette terre, même s'il y a des dizaines d'années qui sont derrière, quel que soit l'avancement de la vie, quoi que soit qu'on ait fait le reste de notre journée, de notre mois, de notre vie, l'image de cette grâce qui est accordée aux brigands, souvenez-vous, sur la croix, qui n'avait pas dû faire grand-chose pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas, avant de rendre l'âme, mais à qui Jésus a dit, eh bien, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. L'image de cette grâce accordée par Dieu qui dit bien simplement « Tu as accepté mon invitation, alors peu importe le moment où tu l'as accepté, mais eh bien, cette pièce d'argent, ce denier, je te le donne, je t'offre cette liberté, je t'offre ce cœur nouveau. Simplement, si tu as soif, viens dans ma maison pour que ta soif soit apaisée. Si tu es fatigué, viens te reposer dans ma maison. Si tu es angoissé, eh bien, accepte cette paix que le monde ne connaît pas, cette paix que je te donne.
Tu es triste, eh bien, viens accepter, découvrir la joie du salut. C'est gratuit. Et on se dit, mais c'est bizarre, c'est pas possible. C'est un peu illogique, c'est un peu anormal, c'est un peu injuste. On n'a rien fait pour cela, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a une part d'injustice quelque part. Mais cette injustice, pardonnez-moi l'expression, elle est basée sur l'amour de Dieu. C'est entre guillemets l'injustice de Dieu qui est basée sur son amour immense, son amour éternel, son amour qui ne dépend pas en fait de l'amour qu'on peut lui rendre en retour. Cet amour qui est là, cet amour qu'on peut rejeter, qu'on peut ignorer, qu'on peut mépriser, mais cet amour qui est là, persévérant, qui est toujours là à la porte du cœur et bien sûr que l'on peut accepter. Alors quelle joie le jour où on accepte eh bien, cette grâce. Et quelquefois on a du mal à comprendre pourquoi ce cadeau aussi illogique, avec nos raisonnements humains qui peuvent renvoyer, cela a été dit tout à l'heure, ça peut nous renvoyer à des paroles qui nous ont blessés, des paroles qui peuvent remonter à l'enfance. Quand on était enfant, peut-être qu'on a entendu des choses qui nous ont conditionnés, des phrases comme voilà, si t'es gentil, t'auras une récompense, mais il faut mériter pour que t'aies quelque chose, une démonstration d'amour de ma part, n'est-ce pas ? Et puis aujourd'hui, alors qu'on réalise ce qu'on a dans le cœur, que c'est pas forcément bien reluisant, qu'on n'a pas forcément eu que des bonnes actions, eh bien Dieu dit, mais peu importe ton cœur, parce que c'est ma grâce qui va transformer ton cœur, gratuitement, sans mériter. Alors on a du mal à comprendre. On a peut-être entendu des phrases aussi du style, mais t'as été méchant, je veux plus te parler. Vous savez, c'est un peu l'inverse, c'est des fois les parents qui boudent, qui n'ont pas la bonne attitude. T'as été méchant, je veux te parler, mais là Dieu il nous dit, mais je connais ton cœur, je sais qu'il y a... Il y a des choses pas reluisantes, je sais qu'il y a de la méchanceté dans ton cœur, je le sais parce que c'est moi qui t'ai créé et puis c'est toi qui as décidé d'aller voir ailleurs et de me désobéir et de pécher, je le connais ton cœur, je sais que tu es méchant, mais je veux surtout pas arrêter de te parler et j'aimerais tellement que toi aussi tu me parles. Je veux surtout que la communion, la communication, eh bien, elle soit rétablie, elle soit pas rompue. Peut-être qu'on a entendu des choses encore plus blessantes, des choses comme mais t'es bon à rien. Mais tout ce que tu fais, tu le réussis pas, tu casses tout ce que tu touches. J'ai entendu des expressions comme ça dans la bouche de parents, tu casses tout ce que tu touches. C'est grave, quelquefois les enfants sont regardés avec des regards soupçonneux où il y a une absence de confiance, où il y a, oserais-je dire, presque une absence d'amour ou de l'amour qui est tellement aussi peut-être conditionné par les souffrances antérieures, mais des manques d'amour et des paroles qui font mal, qui blessent. Et là, Dieu, il est là. Il dit, je connais tes faiblesses, je sais que tu as échoué à tel endroit, je sais que ton cœur, il est dans l'obscurité à tel autre endroit, mais je sais que tu es quelqu'un qui a de la valeur, je sais que tu es quelqu'un de merveilleux parce que tu es ma créature, je sais que j'ai mis en toi des dons merveilleux, et puis cette expression de l'apôtre Paul, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Dieu veut faire des choses avec nous, Dieu veut faire des choses avec vous, Dieu veut que vous soyez co-ouvriers avec Christ et c'est juste magnifique, c'est juste quelquefois un peu incompréhensible avec tout notre conditionnement. On se dit mais alors comment accepter ce cadeau immérité ? Comment l'accepter ? Bah, écoutez, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est par la foi, c'est simplement dire à Dieu, écoute Seigneur, je comprends pas, c'est vrai, je mérite pas, je comprends pas pourquoi, je comprends pas, mais je sais que c'est ce dont j'ai tellement besoin. Il y a une phrase dans la parole de Dieu qui m'interpelle, c'est cet homme, vous savez, dont l'enfant était atteint d'un esprit impur et qui vient voir Jésus, qui lui dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Elle est interpellante cette phrase, n'est-ce pas ? C'est un peu comme il est interdit d'interdire. Vous voyez, c'est une phrase qui a sa contradiction d'elle-même, parce que l'incrédulité, c'est quand on ne croit pas. Mais cet homme, il est là en train de dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, parce qu'il a conscience, en fait, de cette toute petite foi. Mais il a conscience que cette toute petite foi, il peut la placer nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et Jésus lui avait dit juste avant, mais tout est possible à celui qui croit. Et Jésus a délivré le fils de cet homme. Jésus a dit à plusieurs, hommes de peu de foi, gens de peu de foi. Mais ce n'était pas pour casser, c'était pour encourager la foi, c'était pour la faire grandir. Et Jésus a toujours honoré cette petite foi. Oui, comment accepter bien par la foi cette grâce tellement inconditionnelle qu'on peut l'accepter au dernier moment comme ce brigand. Cette grâce qui est la même pour tous, parce que personne ne la mérite. Et si personne ne la mérite, on peut se dire, mais comment alors oser demander plus ? Pourtant, c'est bien ce qu'ont fait ces ouvriers du début de la journée, eux qui étaient jaloux, alors qu'ils avaient finalement reçu ce qu'ils méritaient, le salaire qu'ils méritaient. Mais quelque part, cette jalousie, cette amertume qui me fait penser à la jalousie, à l'amertume du frère de l'enfant perdu, du frère de l'enfant prodigue. cette amertume et ces mauvais regards, cette absence de réjouissance. Et on peut se poser la question, mais est-ce qu'on est dans la joie et dans la reconnaissance déjà de toutes les grâces que Dieu nous a données, de ces grâces infinies, ou est-ce qu'on est en train de dépier de manière comptable, jalouse, les grâces que Dieu aurait données à un tel et puis pas à nous? Est-ce qu'on est jaloux des grâces offertes, eh bien, à ceux qui étaient loin de la maison du Père et puis qui reviennent et à qui Dieu donne et redonne des grâces sans tenir compte de celles qui ont été gaspillées dans ce temps d'errance? Mes amis, est-ce qu'on a conscience que tout ce qui est dans la maison de notre Père, il est à nous? Il est à nous. On a la richesse de notre Dieu, de notre Père, et que le propriétaire de la vigne, il se plaît à distribuer ses richesses et ses grâces, et que sa bonté va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que Dieu, il a jamais de soucis de fin de mois. Dieu, il n'a pas de problème avec ça. Dieu, il n'a pas de problème pour boucler son budget. Il n'est pas là en train de dire « Ah, il manque ça ». Non, il a des ressources infinies. Et puis, vous savez, l'amour et les grâces de notre Dieu, eh bien, plus on les partage, plus on en est riche. Plus on les donne, plus on en est riche, plus on en est enrichi. Alors voilà peut-être une première source de réflexion. Cette première grâce, c'est peut-être simplement celle que Dieu veut donner à tout le monde. Et peut-être à certains ce matin qui ne l'ont pas encore acceptée. Cette grâce du salut, cette grâce du pardon, cette grâce de la réconciliation. Mais peut-être on peut trouver aussi une autre interprétation à cette pièce en argent. On peut se dire que cette récompense, ce salaire, effectivement c'est quand même dans le texte, et bien cette pièce elle a été offerte qu'à ceux qui ont accepté cette invitation de se lever et d'aller travailler dans la vigne, n'est-ce pas? Les ouvriers dont il est parlé, ils ont accepté cette opportunité, ils ne sont pas restés, sur la place du village en train de siroter leur boisson. Pardon, je ne dis pas ça parce que le pasteur est en train de boire un verre d'eau, hein. Il n'y avait rien, mon frère. Voilà, donc on sait l'activité, il n'y a pas... Ils se sont levés et ils sont allés travailler dans la vigne, n'est-ce pas? Ils ne sont pas restés sur la place à ne rien faire. Et pour revenir à ce brigand, il m'interpelle, et je pense qu'il doit nous interpeller, ce brigand qui, au dernier moment, a saisi la grâce. Ce brigand, c'est peut-être, oserais-je dire, celui qui a eu le ministère d'évangéliste le plus court de toute l'histoire de la chrétienté. Parce que souvenez-vous, cet homme, quand il a compris la grâce de Jésus, quand il a compris que Jésus était en train de payer pour lui et qu'il pouvait être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme ? Eh bien, il a dit à son voisin, celui avec qui peut-être il avait fait des coups pendables, il avait dit, mais celui-là, il n'a rien fait de mal. Celui-là, il n'a rien fait de mal. Nous, on est en train de payer pour ce que nos actes méritent, mais celui-là, il n'a rien fait de mal. Et cette prière, Jésus, souviens-toi de moi. Et juste avant d'expirer, juste avant de rejoindre le ciel pour l'éternité, et ce brigand, il doit nous interpeller. Ce brigand, il n'avait pas un passé glorieux, il n'avait pas des œuvres en pagaille, mais dès qu'il a saisi la grâce de Dieu, eh bien, il n'a pas pu s'empêcher de la partager. Alors on peut se dire, mais pour ceux qui ont saisi cette grâce, mais alors pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on ne va pas partager cette grâce? Comment refuser l'invitation de Jésus à faire de toutes les nations des disciples? À commencer par la Chaux-de-Fonds, puisque là je parle à des gens qui sont à la Chaux-de-Fonds, n'est-ce pas? Faites de toutes les nations, faites de toute la Chaux-de-Fonds des disciples. Pourquoi on n'y va pas tous? Alors peut-être que la première raison, c'est simplement qu'on n'a pas vraiment réalisé cette grâce. On ne l'a peut-être pas vraiment réalisé. Jésus disait, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il disait cela à un pharisien, un religieux, qui était scandalisé parce qu'une femme pécheresse touchait Jésus. Il disait cette phrase, celui à qui il a été beaucoup pardonné, aime beaucoup. Mais j'aurais une question, c'est qui pourrait se lever ce matin et puis dire, moi Dieu, il ne m'a pas pardonné grand-chose, hein. Un petit peu, à la limite marginale, ça aurait presque pu passer. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin en disant « Non, moi, il n'y a pas grand-chose dans ma vie. Je fais le tour de la salle, je ne sais pas. Non. Je suis rassuré quand même. » Mais plutôt si nous réalisions vraiment tout ce que Dieu nous a pardonné, le coût que ça lui a coûté, et tout ce que Dieu veut encore nous pardonner aujourd'hui, demain, des choses dont on n'a peut-être pas encore conscience, alors si on vraiment réalisait cela, on serait vaincu par cet amour immense, par cet amour majestueux. On aimerait tellement notre Dieu. On aimerait tellement notre Dieu et on aimerait tellement nos prochains, notre prochain, en ayant réalisé cette grâce qu'on ne méritait pas, mais que Dieu nous a donnée. Et puis, ça serait cette parole de Jésus aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur de la bouche parle. Quand on a notre cœur qui déborde, mais on ne se pose pas de questions, on y va. Et si on pense, c'est bien qu'on n'a que peu de choses à se faire pardonner devant Dieu, par Dieu, eh bien, c'est probablement que la première des choses que Dieu veut mettre dans notre vie, nous faire réaliser, eh bien, c'est l'immensité de nos fautes. L'immensité de nos fautes, l'immensité de nos péchés qui nous séparent de Dieu, non pas pour être écrasés de remords, non pas pour être sous terre, entre guillemets, par le poids de nos fautes, non, mais pour réaliser la grandeur de la grâce de Dieu, pour réaliser l'immensité de cette grâce qui pardonne, qui oublie les fautes de ses enfants, qui les enfouit au fond de la mer. Et c'est vrai qu'on est actuellement dans une société qui, quelque part, minimise le péché. Qui minimise le péché en disant « Non mais, ouais, c'est pas grave, ouais, t'as fait telle chose, mais oh, c'est pas grave, écoute, on va penser à autre chose, on va passer à autre chose. Ouais. T'inquiète pas, laisse tomber. On est dans cette société qui minimise le péché, c'est pas grave. Mais mes amis, si c'était pas grave, eh bien Jésus, il aurait jamais quitté son trône de gloire, son ciel de gloire pour venir donner sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Si c'était pas grave, Jésus serait jamais venu. Et vous savez, minimiser le péché, c'est minimiser la grâce. Il faut que nous réalisions que nous sommes de grands pécheurs, non pas pour être écrasés, encore une fois, mais pour réaliser la grâce infinie de notre Seigneur, de notre Sauveur. Et si, quand on réalise ça, mes amis, eh bien, on aime tellement notre Dieu, on aime tellement notre prochain, et on voudrait tellement que notre prochain soit réconcilié avec Dieu, eh bien, que le témoignage, l'évangélisation, c'est un mot particulier, l'évangélisation, mais tout le monde devrait évangéliser, parce que tout le monde devrait avoir réalisé cette grâce infinie, et tout le monde devrait vouloir partager cette grâce. Alors que ce matin, nous puissions, dans un esprit d'humilité, demander à Dieu de nous faire réaliser la grandeur de nos fautes, non pas pour culpabiliser, mais pour pouvoir réaliser la grandeur de son amour, de son pardon, de sa grâce. Premièrement, peut-être effectivement, on n'a pas vraiment réalisé ou on a oublié cette grâce. Et puis peut-être une deuxième explication par rapport au fait de refuser d'aller travailler dans cette vigne. Peut-être qu'on pense ne pas être capable de grand-chose. Peut-être qu'encore des paroles ont conditionné notre vie. Peut-être des paroles nous ont maintenus dans un état d'humiliation. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu il travaille avec tout le monde parce que Dieu il a mis des dons en chacun, en chacun. Il n'y a personne qui puisse dire ce matin, mais moi je sais rien faire. Moi je sais rien faire. Non, Dieu travaille avec tout le monde. Il travaille aussi bien d'ailleurs avec ceux qui sont prétentieux, vous voyez, ceux qui disent attends Seigneur, je vais te montrer comment faut faire. Vous savez, il y en a. Vous savez, bon, l'apôtre Pierre, il était un petit peu comme ça. Et puis Jésus, il a pris le temps pour l'enseigner, pour dire non, mais c'est pas avec ton intelligence et tes muscles que tu vas faire avancer le royaume de Dieu. Et puis Dieu prend le temps aussi nécessaire pour rassurer ceux qui pensent ne savoir rien faire ou ceux qui se pensent peut-être un peu handicapés par telle et telle chose. Souvenez-vous de Moïse. Vous savez, Moïse, cet homme qui ne savait pas trop bien parler, cet homme qui était bègue et que Dieu a choisi pour envoyer vers l'homme le plus puissant de la planète à l'époque, le pharaon. Ça vous semble logique ? Pas trop. Et puis Moïse, ben non, ça lui semblait pas logique non plus. Alors il se cherchait plein d'excuses. Non, mais Seigneur, envoie qui tu veux, mais pas moi. Envoie quelqu'un d'autre. Et j'aime beaucoup ce passage, cet échange entre Moïse et Dieu qu'on trouve dans Exode au chapitre 4, où il y a un échange entre Dieu et Moïse où Dieu confirme son appel. Dieu montre avec des signes. Il y a eu plusieurs moments où Dieu a vraiment parlé au cœur de Moïse. Et puis Moïse, il ne veut pas. Et Exode 4,13, il dit « Mais Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors que Dieu vient vraiment de lui donner la preuve de cet appel. Comme peut-être dans votre cœur, il y a eu des choses précises qui vous ont montré que Dieu vous appelait. Et alors au verset 14, il nous est dit « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Et il dit, il n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite qui va venir aider ? Mais la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Je ne sais pas si vous savez à quel endroit il y a la première mention de la colère de Dieu. Peut-être vous dites, c'est peut-être au tout début quand Adam et Ève ont désobéi. Non, ce n'est pas là. Peut-être vous dites, c'est quand Caïn a tué Abel. Non, ce n'est pas là non plus. Peut-être vous dites alors... On va réfléchir. Sodome et Gomorre, tiens, c'est peut-être une bonne occasion pour la colère de Dieu. Non, ben c'est pas là non plus. Savez-vous que la première mention de la colère de Dieu, le mot « af » en hébreu, eh bien c'est à cet endroit-là où la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse parce que Moïse refuse alors qu'il sait pertinemment que Dieu l'appelle, que Dieu a un plan pour sa vie, et que quand Dieu appelle, il donne ce dont on a besoin pour le servir, eh bien la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. C'est interpellant, n'est-ce pas ? C'est interpellant. C'est interpellant, Dieu appelle, et même si vous pensez que vous n'êtes pas capable, mais Dieu renouvellera son appel. Dieu renouvellera son appel, et quelque part c'est un avertissement, il est sage d'écouter l'appel de Dieu. Il est sage d'écouter l'appel de Dieu, parce que quand on ne l'écoute pas, on peut se mettre face à la colère de Dieu avec toutes ses conséquences qui peuvent nous emmener très loin. Et la réalité, c'est que Dieu a créé chacun avec des forces, des talents, des dons qui sont exploitables pour réaliser ce commandement que Dieu a laissé. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons tous quelque chose à faire dans la vigne de notre maître. Et on peut douter du résultat en fonction de quand on se regarde et de se dire « Mais non, mais moi, c'est pas possible. » Mais quelque part, c'est aussi un petit peu de l'orgueil, pardonnez-moi. Parce que si on était rassuré en voyant que ce qu'on fait tout de suite, ça a du résultat, on dirait « Waouh, je suis bien quand même finalement, n'est-ce pas ?» Mais c'est Dieu qui choisit le meilleur moment pour faire germer et pour faire croître ce que nous avons semé. Il y a une petite histoire que j'aimerais vous lire, en fait c'est quelques lignes que j'ai lues dans le magazine Pentecôte, des Assemblées de Dieu de France à laquelle j'appartiens, un passage qui est tiré en fait illustré par la nature. Je vous lis ce texte merveilleux qui dit « Si nous avons des fruits, c'est grâce aux fleurs, elles n'en savent rien. Et si les fleurs ont donné des fruits, c'est grâce aux abeilles. » Et les abeilles n'en savent rien. Au temps de la floraison, pensant simplement chercher leur nourriture, les abeilles ont transporté de fleur en fleur le pollen, poussière de vie. Elles pensaient seulement garnir de miel leurs rayons. Elles remplissaient de fruits, du même coup, nos corbeilles. Les abeilles ne disent pas « je ne sais pas faire de fruits ». Elles font simplement ce pour quoi elles ont été créées, en toute simplicité. Amen. Je ne sais rien faire. Un verre d'eau à donner, son pain à partager, un prisonnier à visiter, un étranger à aider, un enfant à soutenir dans sa scolarité, un malade à encourager, une personne seule, âgée, à visiter dans sa solitude. Tout cela, le faire sans prétention, sans recherche d'une quelconque gloire humaine, sans rechercher ce qui est éclatant aux yeux des hommes, simplement en suivant les traces de ce Jésus-Christ de Nazareth qui n'avait ni beauté, ni éclat, rien pour attirer le regard. Des choses qu'on peut faire, même quelquefois sans s'en apercevoir, parce que notre cœur déborde. Souvenez-vous, dans Matthieu 25, lorsque Jésus parle de ce jugement, eh bien, même les justes disent « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et qu'on t'a donné à manger ? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison et qu'on t'a visité ?» Et Jésus dit qui dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, c'est à Dieu que vous les avez faites. » Alors, mes amis, prions, ouvrons les yeux autour de nous. Il n'y a pas besoin de partir loin en mission pour montrer et partager l'amour de Dieu. Et la vigne dans laquelle les ouvriers ont été invités à travailler, ce n'était pas à l'autre bout de la terre, c'était probablement un endroit à quelques minutes à pied de leur village. Et nous sommes, vous êtes déjà en mission à la Chaux-de-Fonds et dans eh bien, toute cette communauté de communes. Vous êtes en mission là où Dieu vous a placé. Et celui qui est fidèle dans les plus petites choses s'en verra confier de plus grandes. Je ne sais rien faire. Peut-être se pense-t-on capable de rien, ne rien avoir reçu comme don particulier, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez reçu, nous avons reçu tous quelque chose de particulier. Nous savons tous quelque chose de particulier, de plus que les gens que nous croisons dans la rue, que nous côtoyons au travail, à l'école, à la faculté. Nous savons, nous avons la certitude, l'assurance que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour vous et pour tous ceux que Dieu met sur votre chemin. Nous savons que le désir le plus ardent de Dieu, eh bien, c'est que le plus grand nombre soit sauvé, que le plus grand nombre connaisse le pardon, l'amour, la paix, la joie que procure la réconciliation avec Dieu, que le plus grand nombre connaisse ce sentiment de sécurité et de paix que l'on éprouve lorsqu'on sait que notre destin il est entre les mains de ce Dieu d'amour et de ce Dieu tout-puissant qui s'occupe des moindres des détails de la vie de ses enfants. Ça, mes amis, on le sait. On le sait, et ça c'est l'information la plus grande, la plus majestueuse, la plus importante des informations que la terre n'ait jamais portées. Et en réalisant cela, eh bien, nous devrions faire arrêter, je ne sais pas, toutes les radios, toutes les télés, tous les programmes internet, mais pour diffuser, pour imprimer, pour partager cette information essentielle, bien plus essentielle que l'air qu'on respire, c'est Jésus est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu ton péché, Jésus t'aime, et il a assez d'amour pour enfouir au fond des océans toute la violence de ce monde, toutes les guerres, toutes les injustices, toutes les souffrances de ce monde, mais à commencer par celles qui naissent à l'intérieur de notre cœur, de ton cœur. Alors peut-être avant de vouloir faire arrêter les télés, les radios, Internet, peut-être devrions-nous ce matin nous arrêter. Arrêter le rythme trépidant de notre vie pendant quelques instants. Pour réfléchir chacun individuellement, nous positionner par rapport à cette invitation du propriétaire de la vigne à venir travailler dans sa vigne. Qu'a-t-on répondu jusqu'à maintenant ? Est-ce qu'on a fait la sourde oreille ? Est-ce qu'on a remis à plus tard cette grâce dont on a tellement besoin, cette porte du cœur qu'on doit ouvrir pour accueillir le pardon de Jésus ? Est-ce qu'on a peut-être agi avec égoïsme, en acceptant pour nous la grâce de Dieu sans penser à la détresse de ceux qui sont en train de se perdre dans la souffrance, dans ce monde ? Ou peut-être on a douté de cette invitation, en regardant plus à nos faiblesses qu'à la force et qu'à la puissance de celui qui appelle ? Alors je vous invite à un temps de recueillement maintenant, un temps où nous pouvons peut-être courber notre front, laisser résonner dans notre cœur ces paroles, cette parabole de Jésus, ces paroles de la Bible que nous avons pu partager et réfléchir à cette réponse qu'on a donnée à Dieu. Parce que Dieu invite encore aujourd'hui. Nous sommes peut-être la 11e heure et Dieu invite encore des ouvriers dans sa vigne. Qu'allez-vous lui répondre ce matin ? Je vous invite à un court temps de silence où vous serez en cœur à cœur avec Dieu, en cœur à cœur avec le Saint-Esprit qui éclaire peut-être en particulier certaines zones d'ombre de votre vie ce matin. Et ce matin, que vous puissiez prendre une décision, que vous puissiez vous remettre en cause ce matin, que vous puissiez changer de cap, changer d'objectif, changer de projet, changer de vie. Il y a peut-être, oui, Jésus, j'ai refusé ta grâce. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir mon cœur par la foi. Peut-être répétez dans le silence de votre cœur. Mais Dieu est là, il vous entend. Jésus, oui, j'ai refusé ta grâce. Je vais aller voir ailleurs, mais aujourd'hui, je vais ouvrir mon cœur par la foi. Peut-être d'autres, vous pouvez dire cette phrase dans votre cœur. Oui, Jésus, je me suis habitué à ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Parce que je réalise que mon cœur, il est sec. Mon cœur, il est aride. Ce manque de compassion, Seigneur, pour aller à la rencontre de l'autre, Seigneur, pardonne-moi. Mais viens par ton Esprit Tout-Puissant, et bien comme un fleuve d'eau vive, pour redonner vie à ce cœur qui est sec, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et renouvelle l'abondance de la reconnaissance dans ma vie. Seigneur, viens. Peut-être cette prière pour certains, Seigneur, renouvelle l'abondance de la reconnaissance dans ma vie. Et puis peut-être pour certains autres en particulier, certains qui doutent ce matin de l'appel de Dieu. Dieu vous appelle, Dieu renouvelle son appel. Peut-être vers cette prière, Seigneur, pardonne-moi, j'ai douté ton appel. Seigneur, pardonne-moi, j'ai regardé à ma faiblesse et pas à ta toute puissance. Seigneur, pardonne-moi de ce doute qui a fait que j'ai pas osé m'avancer. Seigneur, pardonne-moi, mais aujourd'hui je veux avancer, non pas en regardant à ma faiblesse, mais en regardant à toi, à ta force. Vous puissiez faire cette prière dans votre cœur pour certains en particulier. Seigneur Dieu d'éternité, merci parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu appelles encore aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'abondance, un Dieu Seigneur qui est riche en bonté Seigneur, et puis lent à la colère, et on veut te remercier pour ça Seigneur, parce que souvent on est à côté de ce que tu voudrais pour nous. Seigneur, pardonne notre cœur. Seigneur, pardonne-nous d'être si lent à comprendre ce que tu veux nous dire. Pardonne-nous d'être si égoïste. Seigneur, tu vois tous ces bien-aimés ce matin. Tu vois toutes ces personnes que je ne connais pas, Seigneur, mais toi, tu les connais. Tu les connais, Seigneur, mieux que elles se connaissent. Et Seigneur, tu connais leur peur. Tu connais peut-être leur orgueil. Tu connais peut-être leur égoïsme. Mais Seigneur, tu as entendu leur prière ce matin. Tu as entendu le désir de leur cœur. Et Seigneur, je te prie par ton Saint-Esprit de les rejoindre en ce moment, Seigneur. De les couvrir de ton esprit, Seigneur. De les renouveler, Seigneur. De leur donner cette puissance, Seigneur, le Saint-Esprit, pour qu'ils soient témoins ici et, Seigneur, peut-être jusqu'aux extrémités de la terre, si c'est ta volonté. Mais à commencer par ici, Seigneur, qu'ils soient témoins de ton amour, de ta bonté, de ta puissance. Seigneur, bénis chacun et renouvelle, Seigneur, en chacun, eh bien, l'amour pour le prochain. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans cette église. Et que ton nom soit glorifié dans cette ville, Seigneur. À toi la gloire, Jésus, car tu es un Dieu d'amour. Un Dieu lent à la colère, mais riche en bonté, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen.